Donc, tout d'abord, là, je me situe vraiment clairement au cœur du XVIIIe siècle. Le risque artisanal ou le risque industriel qui peut mener à la catastrophe, c'est le risque d'incendie avant tout, avant le processus d'industrialisation tel qu'on le connaît avec son grand machinisme, ses grandes usines ou c'est la chimie lourde. On est plutôt dans le risque de prévention de l'incendie, mais avec des techniques en fait qui vont être à la fois communes avec la prévention de l'incendie domestique ou de l'incendie en général hein, dans les villes, telles qu'on le connaît depuis le Moyen Âge, mais avec des mesures qui vont s'autonomiser petit à petit au fil du XVIIIe siècle entre la sphère domestique et la sphère purement artisanale et industrielle. Et au cours du XVIIIe siècle, on a des indices de cette autonomisation par soit par des accidents et leur traitement bien spécifique s'il s'agit d'une brasserie ou d'une forge par rapport à une maison, ou soit par des règles de prévention qui sont très spécifiques et très autonomes de tout autre règlement et qui se concentrent et se focalisent spécifiquement sur des établissements de type artisanal ou industriel. Alors à Paris, on peut s'appuyer sur trois dates. Hein, même si le processus est, oui, bon, il est de cet ordre-là, mais il pourrait être évidemment nuancé. Début 18e, on commence à trouver en 1707 une première ordonnance de police. Donc, on est là, effectivement, dans cette institution que Vincent connaît bien, dans cette grande institution du Châtelet de Paris et l'autre institution qui en dépend, la lieutenant générale de police. Donc, une ordonnance de police qui oblige une expertise avant la construction de tous les fours, fourneaux, étuves, tout ce qui peut être source d'énergie pour toute une série de professions, chapeliers, bonnetiers, etc., etc. En fait, le mot expertise n'est pas utilisé, hein, ce sont plutôt, c'est, le mot expert est utilisé dans cette ordonnance sans signifier quels sont ces experts. En fait, dans la pratique de la police de Paris au XVIIIe siècle, on se rend compte que les experts, ils sont dans l'ordonnance de police. On ne sait pas exactement à qui ils pensaient, mais ils pouvaient penser à deux personnages. En fait, ils pouvaient penser tout d'abord à la corporation des maçons, hein, avec qui est liée à la chambre des bâtiments, qui devait expertiser toute construction et la rendre conforme à la bonne police de la construction. Donc, bonne police de la construction, bien construire un mur, bien construire un plafond, mais aussi bien construire une cheminée. Et donc, chaque maçon devait. Il y avait un contrôle de la chambre des bâtiments pour la construction d'une cheminée domestique, mais aussi pour la construction de fourneaux ou de fours à destination artisanale ou industrielle. Et cette ordonnance, en fait. Après, dans les pratiques de la police, me fait plutôt penser à des experts de type commissaire de police, puisque les commissaires de police devaient aussi avoir une obligation de surveillance sur les établissements artisanaux et industriels. Alors, Steven Kaplan, par exemple, l'a décrit hein, pour les fours de boulanger, où il a montré que tous les 6 mois, les commissaires de police devaient inspecter les fours déjà construits. Donc, ils avaient plutôt, non pas un contrôle préalable, mais une surveillance après construction. On le retrouve parfois dans d'autres cas, mais de manière peut-être un peu moins systématique que les fours des boulangers. En tout cas, ce n'est pas aussi clair que cela. Mais dans de nombreux cas, notamment en cas de péril imminent, on voit que les commissaires de police ont un rôle, en tout cas, de surveillance. Le deuxième type, là, qui est plus systématique de contrôle, consiste dans les mesures préventives de commodo et incommodo. C'est-à-dire de commodité ou d'incommodité, qui sont clairement liées en fait aux établissements de production. Dès 1729 pour les tanneries au départ, et puis ça va jusque dans les années 1760 s'étendre à toute une série d'établissements artisanaux et industriels, ou pré-industriels, on va dire. Les artisans et les industriels, avant de construire. Pas seulement leur four, de construire leurs établissements, doivent se soumettre à une enquête préalable de l'administration de la lieutenant générale de police. Alors, je vous donne un exemple ici, qui se rattache à un plan, en fait. On est sur un plan de 1786, dans le cadre d'une enquête de commodo et incommodo. Donc, en fait, c'est un boucher qui a fait une demande d'établissement d'une boucherie, mais en fait, une boucherie à l'époque, c'est plus qu'une boucherie où on vend de la viande, c'est aussi une boucherie où on tue les bêtes. Donc, ça crée des nuisances. Et c'est aussi un établissement où on fond toutes les graisses animales, soit pour en faire donc du suif, hein, des chandelles, soit pour en extraire l'huile, pour faire de l'huile d'éclairage, par exemple. Et donc, ces produits sont très inflammables, en fait, et sont une source de risque d'incendie très, très forte. Et donc, le boucher a fait sa demande, il a fait sa requête par écrit, et dans sa demande, il a produit un plan qui décrit, en fait, sur la rue de la Harpe. Alors, pour ceux qui connaissent Paris, on est pile, en fait, au carrefour du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel, actuellement. Donc, on est en plein centre de Paris, à côté de la Sorbonne. Il y a la rue du Foin et la rue de la Harpe, mais qui n'existent plus de nos jours. Donc, le boucher monte son étal de vente derrière les chaudoirs, c'est-à-dire l'abattoir. Ensuite, dans la cour de l'immeuble, dans la cour commune de l'immeuble, il dessine en fait le ruisseau des eaux sales qui va s'écouler par le couloir d'entrée, puis ensuite dans la rue du Foin. Je précise bien ruisseau des eaux sales parce que le sang est recueilli, le sang n'est pas jeté dans les rues. Il mentionne aussi dans la cour un puits. Et puis derrière, la bouverie, c'est-à-dire le lieu où les moutons ou les bœufs vont être parqués avant l'abattage. Et puis, sur ce plan, on voit aussi toute une série d'autres... donc toujours au rez-de-chaussée, tout ça, d'une boutique, un limonadier, une maison qui appartient à un évêque, enfin, ou quelqu'un qui est lié à l'évêché, etc., etc. Donc on voit une imbrication, en fait, des activités artisanales et des activités de soit de vente, soit d'habitation. Et puis surtout, ce qui est intéressant ici... En fait, on a au troisième étage la place de la fonderie de Suif, troisième et dernier étage. Et donc, on a en fait dans beaucoup de demandes dans le cadre de ces enquêtes de Commodo en Commodo, ces plans qui permettent en fait de juger de la commodité ou de l'incommodité de l'établissement par rapport à la ville et du risque d'incendie que cela peut provoquer. Alors, les ordonnances de police ne le spécifient pas explicitement, les règlements ne le spécifient pas explicitement, mais il est d'usage et ça devient... une des règles dans les avis du lieutenant général de police, après, pour accorder ou ne pas accorder, que la fonderie de Suif soit toujours au dernier étage de l'immeuble dans lequel le boucher a établi son échaudoir, en fait. Toujours au dernier étage. Alors, pourquoi? Parce que ça sent très mauvais, déjà. Donc, les fumées s'échappent comme ça plus haut dans l'atmosphère. Et puis, pour sans doute des questions d'incendie, avec un plâtrage des poutres en haut, etc., ça devait être plus conforme à la sécurité. Alors, dans ces enquêtes de Commodo 1 Commodo aussi, ce qui est très intéressant, c'est que ça inclut des enquêtes de voisinage qui sont obligatoires. Et dans le cadre des fonderies de Suif là, qui nous occupent, dans cet exemple, c'est au moins 12 personnes, dont 4 syndics de la corporation des chandeliers bouchers. Et donc, il fallait... et en plus, ça pouvait s'accompagner de dépositions additionnelles spontanées du voisinage. Ayant recueilli la requête du boucher, dans ce cas, ou du tanneur dans un autre cas, etc., les avis de moins 12 personnes et bourgeois de Paris, en fait, le commissaire de police rendait son avis. Et ensuite, dans le cas des fonderies de Suif, le lieutenant général de police, donc c'est l'équivalent du préfet de police actuellement, hein, donc c'est pas n'importe qui, et à l'époque il a aussi place au conseil du roi, se déplaçait sur place pour inspecter les lieux, et il ne pouvait rendre son avis que s'il s'était déplacé sur place et qu'il avait inspecté lui-même les lieux. Donc on a vraiment des mesures préventives qui sont très très fortes. Ce qui fait qu'en fait, au moment où éclate la Révolution française, il y a une cinquantaine de fonderies de Suif dans Paris, en plein centre de Paris. Et je vous montrerai l'exemple d'un incendie tout à l'heure. Mais dans le cas des fonderies de Suif encadrées par ces enquêtes, c'est-à-dire des fonderies de Suif privées, il n'y a eu peut-être des petits débuts d'incendie, mais aucune catastrophe en fait industrielle ou artisanale. Parce que les enquêtes étaient très strictes, avec une surveillance vraiment très, 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 très stricte. On va voir qu'à Londres, ça ne se passait pas tout à fait pareil. Et puis, dans le processus de contrôle, peut-être que Vincent saura plus préciser ça, mais moi, je n'ai pas retrouvé exactement quand l'architecte du Châtelet, en tant que tel, en tant qu'office, se met en place, mais aux environs de 1759 au moins, peut-être avant. En l'occurrence, un seul architecte du Châtelet est Greuzet, oui, Grosset va avoir cette charge en fait jusqu'à la Révolution française, qui va être en charge lui des périls imminents. et qui avoir un rôle très important. Parce qu'en cas d'une fumée qui se propage dans un appartement ou d'une cheminée qui menace de tomber, etc., et donc risque d'incendie, il va intervenir tout de suite et il va pouvoir en fait ordonner, après enquête, le renvoi à la chambre de police de l'artisan en question, par exemple, si c'est un artisan. Donc il y a plusieurs cas comme ça, des fabricants de poils, des fabricants de porcelaine, etc., qui ont été inspectés par l'architecte du Châtelet. Et qui sont donc après jugés à la chambre de police, de le lieutenant de police. Donc avant accident, mais quand il y a un risque d'accident avéré. Donc en l'occurrence, ce sont les pères éliminants. Si on fait le bilan de ces mesures de prévention rapidement résumées sur Paris au XVIIIe siècle, ça aboutit finalement à aucune catastrophe industrielle de type d'incendie artisanal. Alors qu'à Londres, avec une gestion tout à fait différente, on trouve des exemples assez fréquents d'incendies qui sont liés à l'industrie ou à l'artisanat. Alors, je reviendrai quand même sur un des incendies qui a touché Paris, mais plus tard. C'est l'incendie de l'Hôtel Dieu en 1772. Donc, à Londres, en fait, la régulation est complètement différente parce qu'elle est à la fois coordonnée par la City of London, mais qui est un territoire, un périmètre, en fait, d'administration très restreint par rapport à l'administration parisienne, restreint vraiment à la City. Et donc, elle est à la fois... il y a une régulation à la fois par la City of London et puis, donc, tout autour de la City, les paroisses, en fait. Donc, à la fois par ces institutions un peu publiques et par des sociétés d'assurance directement qui vont prendre leur essor après le grand incendie de 1666. Cet incendie a provoqué à la fois l'émergence des sociétés d'assurance dans la régulation des incendies et puis aussi des règlements municipaux très stricts qui, en gros, l'idée, c'était d'exclure le bois des constructions pour le remplacer par des briques avec des normes de distance très, très strictes. Donc, les normes sont strictes, mais il y a une espèce de co-régulation entre les règlements, donc de la City of London ou des paroisses, de Westminster, etc., et des sociétés d'assurance. Alors, ça fonctionne, parce que les sociétés d'assurance vont soumettre à des taux différenciés les sites à risque. Et les sites à risque, ça va être, par exemple, les fabriques de sucre, les fabriques de malt, etc., puisqu'ils ont des fours, ils ont des étuves, etc. Donc, avec des taux différenciés, ça va permettre finalement aux industriels de faire attention. Donc, malgré tout, on trouve quand même beaucoup plus d'incendies à Londres au XVIIIe siècle qu'à Paris, liés à des établissements industriels, des forges. Ici, en l'occurrence, c'est un plan qui a été établi après un incendie d'un fabricant de perruques en 1748. Donc, qui a fait beaucoup de dégâts. Je ne me souviens plus le nombre de morts, mais qui a fait, si mes souvenirs sont bons, plusieurs dizaines de morts. Alors, qui n'est pas du tout l'équivalent du Great Fire de 1666, mais on retrouve donc plusieurs cas d'incendie de type artisanal et industriel, ou pré-industriel, à Londres au XVIIIe siècle, beaucoup plus qu'à Paris. Ce qui va être intéressant dans le cas londonien, c'est que vraiment quelque chose qui, bien qu'on ait vu un plan tout à l'heure de la fonderie de Suif, ce qui va être un cas très très particulier à Londres, c'est qu'il va y avoir un raisonnement par la cartographie et par les plans. Parce que les assurances, en fait, comme elles soumettent les établissements industriels et artisanaux à des taux différenciés, elles ont besoin d'avoir une connaissance vraiment des locaux très très précis. Et de savoir si le four il est placé à tel ou tel endroit du mur, etc. Donc en fait, c'est pas la chambre des bâtiments qui va dire ça c'est pas aux normes, il faut pas construire comme ça, il faut construire comme ça. C'est les assurances qui vont dire là il y a plus de risques là si vous construisez. Donc c'est pas vraiment une question de normes, c'est une question d'évaluation des risques. Et ici, on a un exemple en fait de calcul des taux. Alors ça sera un peu compliqué d'expliquer parce que il y a un calcul des taux qui est en fait calculé en fonction du bâtiment lui-même, des distances du four, du type de four, etc. Et parfois, on retrouve sur des archives où les taux sont calculés plusieurs fois parce qu'il y a des renvois entre l'assureur et l'industriel. où voilà, l'assureur propose un taux, l'industriel n'est pas d'accord, il va dire revenez dans mes locaux pour voir, j'ai plâtré les poutres, mon four il est quand même à 50 cm du mur, il n'est pas à 20 cm, etc. etc. Donc ça rend les... Comme ce n'est pas qu'une question de normes, c'est une question d'évaluation des risques, ça rend effectivement les archives un peu difficiles à commenter dans un cadre comme ça, dans une présentation générale. Mais c'est effectivement, on est plus là dans une optique de risque que dans une optique de norme, de respect de la norme telle qu'elle doit être en termes de bonne police. Alors évidemment, ça s'affine au cours du temps. Donc je ne vais pas parler vraiment du 19e siècle à Londres, mais on pourrait aller jusqu'à la fin du 19e siècle où là on a vraiment des plans qui sont magnifiques et très très affinés. Mais là, au tournant du siècle, dans les années 1800, le Sunfire Office ou d'autres sociétés d'assurance commandent des plans bien plus détaillés. Mais on a en fait de plus en plus une distinction en fait de plus en plus fine entre les types de risques. Donc tel type de four, à quelle température va monter le four, quels sont les locaux adjacents, dans quel matériau c'est construit, quelle est l'histoire même des dégâts de cet atelier, etc. Ça mène en fait à la fin du XVIIIe siècle à une échelle des risques qui va aller pour la plupart des sociétés d'assurance de 1 à 8 en fait. Donc ça va être de 1, le risque minimal, c'est-à-dire une maison avec une cheminée traditionnelle, jusqu'au 8, où on va être dans l'usine, la raffinerie de sucre par exemple, où là on a des fourneaux qui tournent quasiment 24 heures sur 24, avec des combustibles, du charbon, des matériaux inflammables par ailleurs, etc., etc. Donc il y a les deux grandes villes en fait, Londres et Manchester, parce que ce sont les deux plus grandes villes industrielles au XVIIIe siècle en Angleterre, qui vont en fait dynamiser le secteur des sociétés d'assurance et puis qui vont aussi permettre aux sociétés d'assurance d'avoir une évaluation du risque de plus en plus fine et donc de donner des taux de premium différents suivant les établissements. J'ai beaucoup parlé des assurances, mais en même temps, le ministère public avait encore autorité, hein, bien sûr, pour punir un artisan qui avait fait une preuve d'un risque inconsidéré. Donc avant qu'il y ait un accident, ou les punir après un accident. Donc c'est le terme de public nuisance, qui a vraiment un terme pénal en fait, et qui pouvait être traduit à différentes cours de justice. Hein. À Londres c'est très compliqué, mais jusqu'à la plus haute cour de justice pénale, à la King's Bench. Et là je vous ai juste mis un cas d'un procès en 1775, qui associait à la fois le ministère public, c'est-à-dire en fait la cour royale souveraine, hein, qui va en fait attaquer un forgeron ici, parce qu'il a construit des forges en fait à l'étage et que les règlements prohibent, c'est la question de la construction de forges à l'étage. Toutes les forges doivent être construites sur terre battue, en rez-de-chaussée des immeubles, etc. Et là, il remarque qu'il... Donc avant même l'incident, en fait, je crois que dans ce cas-là, il y a eu un début d'incendie, en fait. Et donc, l'enquête du ministère public a fait qu'ils ont remarqué qu'il y avait des forges à l'étage. Et il conclut « I believe it very dangerous », c'est-à-dire qu'en fait, il considère que c'est non seulement c'est contraire à l'acte de parlement de la même année, 1775, je crois, ou l'année d'avant, 1774. Donc, un acte public, un règlement du parlement. Mais en plus, c'est dangereux, donc il peut être poursuivi pour risque pénal, en fait, au pénal pour ça. Et dans ce procès, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'artisan, en fait, il va se défendre avec un certificat de sa compagnie d'assurance. Et sa compagnie d'assurance certifie que c'est peut-être contraire au règlement, mais que eux, ils ont considéré que ce risque était largement maîtrisable. En tout cas, no danger of fire can arise or happen by reason of the said forges. C'est-à-dire qu'en fait, eux, leur évaluation des risques a donné l'autorisation en fait aux forgerons de construire ces risques au premier étage. Donc voilà, on a une espèce de tension en fait entre la norme et la norme qui peut nous renvoyer à la question de public nuisance, c'est-à-dire infraction aux règles publiques, c'est-à-dire traduction devant un tribunal pénal par exemple, et une logique qui est plus celle de l'évaluation des risques en fonction d'un plan, en fonction de visite et fondée sur des cotisations privées, hein, donc le système de l'assurance. Alors si on veut comparer les deux, c'est très difficile en fait, hein, parce que bon, je vous disais que le Paris, c'est quand même une réussite du point de vue artisanal et industriel. Malgré tout, les fourneaux, forges et fours en fait, étaient quand même plus présents à Londres qu'à Paris, donc c'est très difficile de comparer en fait, hein. On peut voir que ça ne se passe pas de la même façon, on peut voir qu'il y a eu plus d'incendies de type artisanal et industriel à Londres, mais c'est très dur de dire qu'un... Forte densité aussi, mais c'est très dur de dire qu'un système était plus efficace que l'autre. Dans tous les cas, l'installation industrielle artisanale, dans les deux cas, est traitée spécifiquement pour prévenir ou réparer la catastrophe qui peut être une catastrophe, qu'on peut considérer comme une catastrophe, ou qui peut le devenir, hein, puisque le Great Fire, ça, c'est quand même à l'origine d'un four de boulanger, hein, si, c'est ça. Hein. Donc ça peut se transformer en catastrophe largement. Quelque chose d'intéressant, mais plus à Londres, parce que ça a été plus étudié à Londres qu'à Paris, c'est les ramoneurs, en fait. Donc les ramoneurs, en fait, qui sont aussi des agents de prévention des risques d'incendie, puisque souvent les feux de cheminée prenaient feu parce que les conduits étaient mal ramonés. Et bon, je passe très très vite, mais les sociétés de ramonage aussi avaient leur rôle. Ils étaient en forte concurrence à Londres. Et les conduits étaient tellement fins, d'ailleurs, que c'était des enfants qui le faisaient. Et que ça provoquait des maladies, et notamment des cancers des testicules, parce que respirer la suie, en fait, ça provoque ce type de cancer. La suie des... Mais bon, il y avait aussi une concurrence sur la surveillance des conduits de cheminée à Londres. Et en France, en fait, ça s'est pas fait de la même façon. Ça s'est fait par la création d'une compagnie des ramoneurs, en fait, sous la houlette de la lieutenant général de police. Donc encore sous un système plus administré, non pas sous le système d'une concurrence entre des entreprises de ramonage, en fait. Alors je reviens à Paris, où finalement il y a quand même eu un incendie de type artisanal qui a fait entre 20 et 30 morts. À l'Hôtel Dieu, donc à l'hôpital de l'Hôtel Dieu de Paris. Et en fait, c'est vraiment, ça va renforcer ce que je disais tout à l'heure sur le rôle de la prévention et le lieutenant général de police, puisqu'en fait, l'hôpital Dieu avait l'exclusivité de la fonte, de l'abattage des bestiaux et de la fonte du suif pendant la période de carême. Donc pendant la période de carême, toutes les boucheries de Paris étaient fermées. Mais il fallait quand même soit nourrir des malades de protéines, donc de viande, ou les privilégiés, etc. Enfin bref, on trouvait toujours moyen de manger de la viande pendant le carême s'il le fallait. Et donc il y avait un abattoir à l'Hôtel Dieu. Et pendant tout ce mois de carême, les bovins et les ovins étaient abattus, enfin en moins grande quantité qu'en temps normal, mais ils étaient abattus là. Et donc accolé à cet abattoir, il y avait une fonderie de suif et une chandellerie. Tout ça, ça allait avec. Et vous avez une représentation donc de la fonderie de suif de l'Hôtel Dieu, donc de la nouvelle fonderie de suif de l'Hôtel Dieu après l'incendie, hein, par le peintre de Machy, qui était un des grands peintres des scènes parisiennes à la fin du XVIIIe siècle. Et puis une représentation par Gabriel de Saint-Aubin de l'incendie de l'Hôtel Dieu en 1772. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est que cette fonderie de suif et cette chandellerie n'étaient pas soumises à l'autorité du lieutenant général de police. Elle avait sa propre administration et sa propre façon de pratiquer. Et c'est finalement le seul incendie de fonderie de suif qui a eu lieu avec une destruction quasiment complète de cet hôpital de l'Hôtel Dieu en 1772, avec, je crois que c'est 23 morts, mais on n'est pas vraiment sûr de toute façon du nombre précis des morts. Et donc voilà, c'est, à mon sens, ça renforce le fait que dans toute cette cinquantaine d'établissements privés, en fait, où il pouvait se passer beaucoup de choses et qui n'ont pas brûlé pendant tout ce grand siècle des fonderies suives, et les fonderies suives vont être jusqu'en 1815, hein, dans les années 1810, encore en plein centre de Paris. Aucun incendie majeur n'a éclaté dans ces établissements très dangereux, et parce que la surveillance de la lieutenant général des polices, puis ensuite pendant la révolution du bureau de la ville et ensuite de la préfecture de police, était quand même très très forte avant la création des abattoirs de Paris à l'extérieur de Paris. Donc j'ai insisté là sur le XVIIIe siècle sur les incendies, mais bon, il y avait d'autres risques, d'autres types de risques qui étaient quand même, on va le voir dans le deuxième exemple, celui de la poudrerie de Grenelle, mais qui étaient liés plus un système une philosophie de l'éloignement. Tout type de risque en fait non maîtrisable devait être éloigné de la ville. Alors, je pense aux poudres, aux feux d'artifice, etc. Et on va le voir dans l'exemple des poudreries, je vous montrerai quelques exemples. Et justement, deuxième partie, je vais attaquer directement sur l'explosion de la poudrerie de Grenelle, Paris 1794, parce que finalement, là, on a une catastrophe, hein, une catastrophe, puisque nous sommes dans Paris. Grenelle, c'est un quartier de Paris, près de l'école militaire. Alors, bien sûr, la date, c'est donc la Révolution française, donc un contexte très particulier, je vais y revenir. Nous sommes dans Paris, donc pas dans une zone très densément peuplée, puisque c'est près des barrières de Paris, c'est près du Champ de Mars, hein, donc on n'est pas en plein centre-ville, mais quand même, on est à l'extrémité d'un faubourg dans lequel, en fait, le gouvernement révolutionnaire a décidé de construire une immense poudrerie pendant la guerre de l'an 2, dans laquelle au moins jusqu'à 1700 ouvriers travaillent. Et puis cette poudrerie explose. Je reviendrai aux causes un peu tout à l'heure, le 31 août 1794, et elle fait 1400 victimes, environ 1400 victimes, pour lesquelles on est très très bien documenté, puisqu'il reste aux archives nationales une trentaine de cartons individuels ou collectifs de cartons d'archives qui est lié au processus d'indemnisation en fait, qui a suivi l'explosion de la poudrerie. Donc ce sont des dossiers sur lesquels je suis en train de travailler pour essayer de comprendre comment l'indemnisation s'est mise en place, comment les bureaux ont travaillé, comment l'administration a réagi par rapport à cette catastrophe industrielle. Alors comme les travailleurs de la poudrerie vont être assimilés à des soldats victimes, des soldats enfants de la patrie en fin de compte, donc très vite l'État va les prendre en charge dans une vision très bureaucratisée, avec une indemnisation très étatique, un processus de bureau, en fait, très, très intéressant. Et ce document, je trouvais, mettait en exergue ce traitement un peu bureaucratisé de l'individu. Bon, à côté de ça, on a des dossiers individuels magnifiques dans lesquels il y a des parcours des victimes, en fait. Soit ils sont morts et donc les pièces sont amenés par leurs veuves ou leurs enfants et on a des reconstitutions de carrière quasiment, des lettres de veuves, tout ça pour obtenir quoi ? Pour obtenir une indemnisation, soit pérenne, sous titre de pension, soit provisoire en cas de blessure. Donc là, on est en train de traiter tous ces dossiers à plusieurs en fait pour voir quelle était la logique et est-ce que ça n'a pas été le premier cas en fait d'une logique de, pas d'État-providence encore, hein, ça serait anachronique, mais de gestion par l'État d'une catastrophe et de prise en charge par l'État d'une catastrophe industrielle et d'une indemnisation des blessés et des veuves. On retrouve aussi dans ces dossiers des choses très touchantes, hein, des pétitions individuelles et collectives, soit parce que l'indemnisation tarde à arriver, soit parce que avec l'inflation, hein, vous savez que pendant la Révolution française, une inflation très importante a eu lieu avec des dévaluations permanentes et puis l'émission d'assignats, c'est-à-dire de papier monnaie dans lesquels les personnes n'avaient confiance, donc nouvelle inflation, etc. Donc soit retard de paiement, soit inflation, donc les pensions accordées ne valaient plus rien, etc. Donc il y a toute une série de négociations finalement collectives entre des individus et l'État. Et ce processus va durer il va se clore en fait sous le régime napoléonien, mais il dure plusieurs années. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous présenter les résultats définitifs, mais une gestion complètement différente en fait de ce qui se passait sous l'ancien régime, où en cas de catastrophe, il y avait essentiellement, c'était une espèce de grande collecte d'argent dans le voisinage, pour de l'ordre de la charité en fait, hein, et qui était centralisé par ailleurs par le lieutenant général de police et le premier président du Parlement de Paris, puis après redistribué aux victimes. Mais là, c'est l'État qui prend en charge vraiment, et avec aussi une logique vraiment de droit qui va apparaître et qui est vraiment dite, une logique de droit plutôt qu'une logique de secours de l'ordre de la charité. Alors, pour comprendre cette explosion et pour comprendre l'avènement de cette catastrophe dans la ville, évidemment, on est obligé de recourir au fait que c'est une situation quand même exceptionnelle. En 1793, le gouvernement révolutionnaire décide de concentrer dans Paris, à l'intérieur des murs de Paris, ce qui était tout à fait inimaginable selon les normes ou selon la pratique de la police d'Ancien Régime, hein, d'ateliers d'armes qui va s'appeler la Manufacture de Paris. Au sein de la Manufacture de Paris, donc, on a non seulement des fabrications d'armes, mais on a ici la grande raffinerie de salpêtre de l'unité, qui est en fait dans les bâtiments conventuels de l'église Saint-Germain. Comme le salpêtre était le matériau principal de la poudre noire, qui était la seule poudre de munitions à l'époque, donc avec le soufre et le charbon, et donc tout le salpêtre de Paris était raffiné dans cette raffinerie et ensuite était livré à la poudrerie de Grenelle, pas complètement urbanisée, mais pas très loin quand même du boulevard et du Gros Caillou et du faubourg Saint-Germain. Hein. Donc le contexte est très particulier parce que les armées ne sont pas très loin de Paris. Hein. À la fin de l'année 1793, il y a une menace d'encerclement. Et il faut absolument produire, et produire à un rythme très très important. Et donc, tout ce processus de gouvernement révolutionnaire, de production à outrance et de concentration dans Paris se déroule sans le respect des règles de prévention qui existaient avant. Donc plus d'enquête de commodo et incommodo, l'inspection du travail, de toute façon, elle avait été supprimée. En 1789, les corporations aussi, voilà. Toutes les règles d'encadrement d'Ancien Régime avaient disparu. De plus, la guerre menace, il faut absolument produire, et c'est donc dans Paris qu'est construite cette poudrerie. De plus, dans cette poudrerie sont mis en place des nouveaux systèmes de production, parce qu'il faut produire rapidement. Et en fait, la poudre, selon les procédés traditionnels, se fabrique environ en un mois. C'est-à-dire qu'il faut un mois pour produire de la poudre. Les chimistes, Berthollet, Carny, Monge, etc., qui sont attachés au gouvernement révolutionnaire, vont imaginer un nouveau procédé. En l'occurrence, c'est le procédé de Carny qui va être adopté. Des nouvelles techniques de production qui réduisent à moins d'une semaine la production de la poudre. Alors, c'est des techniques qui ont été vraiment mises en place très rapidement, sans avoir été testées sur une longue échelle, et qui vont avoir lieu dans cette poudrerie, avec notamment l'introduction tout à fait novatrice de manèges à chevaux pour mélanger, pour mixer la poudre dans des tonneaux. Et jamais aucune poudrerie, en tout cas en France, n'avait fait l'usage de chevaux et de manèges à chevaux pour mélanger la poudre dans des tonneaux, comme ça, pour que ça aille plus vite. Jusqu'à présent, jusqu'alors, hein, c'était en fait des moulins à pilons, que la poudre était malaxée et mélangée très lentement, parce qu'en fait le problème de la poudre, c'est que ce sont les chocs, en fait, hein, les chocs qui vont intervenir, qui vont la faire détonner. Et donc, selon les procédés traditionnels, hein, c'était des moulins à eau qui faisaient fonctionner des pilons et qui malaxaient tranquillement, les pilons en bois, en fait, qui malaxaient cette poudre. Ici, on a des nouveaux procédés de fabrication. Donc si on met tout ensemble, en fait, une concentration inédite, 1700 ouvriers, la pression révolutionnaire, la dictature, hein, de la Convention, le fait qu'il fallait produire vraiment rapidement de la poudre, etc., et sans aucun mécanisme de prévention, on peut se dire que finalement l'explosion était tout à fait normale, d'autant plus que même dans les poudreries d'Ancien Régime, en fait, il arrivait fréquemment des explosions. Mais dans les poudreries d'Ancien Régime, un fait fondamental était que la poudrerie était éloignée complètement. C'était inimaginable de construire une poudrerie dans une ville. Par exemple, vous avez la poudrerie de Bordeaux. Cette poudrerie de Bordeaux, en fait, elle est à 15 km de Bordeaux. Et elle est à 1,5 km du village de Saint-Médard. Elle est le long aussi d'une rivière avec les moulins à pilons et des bâtiments séparés les uns des autres, pour éviter tout risque, en fait, de propagation d'incendie, par exemple, s'il y avait une explosion dans un dépôt. C'est souvent, d'ailleurs, dans les dépôts que les explosions avaient lieu. Et moins souvent dans les pilons. Pas les marteaux pilons, mais les moulins pilons. Vous avez un autre exemple d'un plan de 1753 de la poudrerie de la Fère, où on voit qu'elle est complètement isolée et elle est entourée souvent d'un parc paysager. On voit bien donc les pilons. Les moulins à pilons, et puis ensuite différents bâtiments qui vont être séparés les uns des autres en fonction des opérations et selon des règles, en fait, qui sont assez strictes, parce qu'on sait, la poudre noire, on sait qu'elle peut exploser suivant la température, les chocs qu'on lui inflige, le traitement qu'on lui donne, etc. Donc en fait, la philosophie de l'Ancien Régime, en ce qui concerne le risque, c'est globalement éloigner le risque hors de la ville. Donc ça ne peut pas être fait tout le temps. C'est pour ça que, en fait, il y a les deux grandes professions, donc les fondeurs de suif et les forgerons, étaient souvent autorisés dans les villes, mais sous la contrainte de ces mesures de prévention très très importantes que je vous ai décrites. Et puis donc Grenelle, catastrophe industrielle, quelles conséquences de cette catastrophe industrielle, quels enseignements a-t-elle eu pour la suite? Et j'en viendrai à ma troisième partie. Est-ce que ça a été une catastrophe qui a été si dramatique qu'elle a exclu pour de longues années ou de longues décennies le risque industriel en ville? Ou au contraire, est-ce qu'elle était tellement exceptionnelle que finalement elle est passée inaperçue dans la mise à place des normes? C'est plutôt cette deuxième explication qui va prévaloir. Alors, ce contexte était tellement extraordinaire finalement que la législation des risques tout au début du 19e siècle va se faire sans prendre en compte en fait cette explosion de Grenelle. Alors il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, hein. Tout ce que je vous ai dit sur le fait qu'on était en guerre, en révolution, etc., et que ce n'était pas une situation normale. Deuxième chose, le responsable de cette poudrerie, c'était Chaptal. Et Chaptal devient, à la fin du 18e siècle et au 19e siècle, au début du 19e siècle, jusque les années 20, mais au moins jusque 1810, et la loi sur les établissements classés, la première loi au monde sur les établissements industriels polluants. C'est le grand Manitou, hein, c'est le grand ordonnateur de ce règlement. Donc il était responsable de la poudrerie de Grenelle, et en même temps c'est lui qui va mettre en place les nouveaux règlements, et il a réussi en fait à échapper à la question de la responsabilité de l'explosion. C'est-à-dire que après cette explosion et la fin de la convention, donc le début du directoire, il a fui quelques mois, voire quelques années hors de Paris, puis il est revenu s'installer à Paris en 1798, où là il a construit une usine au Terne. Au Terne, c'est dans le 17e arrondissement de Paris actuellement, donc c'était à l'extérieur de Paris à l'époque, mais c'est dans Paris maintenant, une usine d'acide sulfurique, une des plus importantes de France. Puis en 1799, donc, il publie un petit essai qui n'est pas très très long, mais où en fait il exalte la chimie, la nouvelle chimie, hein, c'est celle de Lavoisier, et puis de Berthollet, de Guiton de Morveau, de Fourcroix, c'est-à-dire toute cette nouvelle chimie qui révolutionne en fait la chimie dans le monde. Paris était vraiment le centre chimique à l'époque. Mais il lie le perfectionnement des arts chimiques au perfectionnement de la gouvernance économique, en fait, dans ce livre. Et en fait, c'est en quelque sorte un programme de politique économique. C'est un petit essai qui va avoir sa petite notoriété, puisque l'année d'après, il est nommé par Napoléon ministre de l'Intérieur. Et ministre de l'Intérieur, il va s'occuper non seulement des affaires intérieures, mais aussi des affaires économiques, puisqu'il va créer la société d'encouragement pour l'industrie nationale, mais il crée aussi les chambres de commerce. C'est lui qui crée les préfectures. Etc., etc. Il se passe la chose curieuse suivante, c'est que lui-même est attaqué en procès de pollution industrielle en 1803 dans son usine des Ternes, parce que ça détruit le voisinage par les pollutions acides. Et donc il se retrouve à la fois dans la position de celui qui fait autorité sur ces questions, puisque les questions de nuisance industrielle étaient passées du ministère de la police au ministère de l'Intérieur durant ces années napoléoniennes. Donc il fait autorité sur ces questions, puis il est aussi le principal accusé parce que son usine d'acide sulfurique, c'était une des plus grandes de France, c'était une des plus polluantes, avec notamment une production selon des technologies nouvelles, avec des condensations dans des chambres de plomb qui sont pas aussi grandes que cette salle, mais presque aussi grandes, donc avec une maîtrise des fuites de gaz acide très difficile à effectuer. Donc il est dans cette position inconfortable. Et c'est pas le seul procès qui a lieu dans ces années-là, parce que en fait après la Révolution française, il y a eu Grenelle, tous ces ateliers d'armement qui ont eu lieu dans la ville. Mais après, les règlements sont revenus petit à petit seulement, notamment les règlements en termes d'incendie, ont été remis en place par les préfectures petit à petit. Mais en 10 ans, en 15 ans, un certain nombre d'ateliers s'étaient mis en place dans la ville et existaient. Et donc, par analogie, pourquoi un producteur de produits chimiques ne pourrait pas s'installer dans la ville alors que pendant 15 ans, d'autres avaient eu le droit? Donc, juste une question de pure concurrence, il y avait une espèce de liberté de s'installer là où l'industriel le voulait. En tout cas, les règles de commodo et incommodo n'avaient pas été rétablies, sauf pour les bouchers, etc., etc. Donc, un grand nombre de procès en justice de paix ont commencé à avoir lieu au début du XIXe siècle, puisque c'était la justice de paix qui pouvait juger des dégâts en fait sur les récoltes et des dégâts sur les murs, sur les bâtiments des voisins. Et Don Chaptal, hein, qui est traduit en procès de justice de paix en 1803. Donc, situation très embarrassante pour les préfets qui n'arrêtent pas d'écrire au ministre pour dire qu'il se passe des choses dans leur ville. Et puis, embarrassement à Paris aussi, où un certain nombre d'affaires ont lieu. Et donc, le ministère de l'Intérieur va commander à l'Académie des sciences en 1804 un rapport sur les établissements insalubres. Établissements insalubres, ça pouvait dire les poudreries dangereuses ou les tanneries puantes ou les fonderies de suif dangereuses pour l'incendie, etc. Et il se trouve qu'en fait, Chaptal avait démissionné au mois d'août du ministère de l'Intérieur, donc c'est son successeur qui a commandé le rapport, qui est transmis à l'Académie des sciences. Mais l'Académie des sciences va demander à deux personnes d'écrire ce rapport, et ces deux personnes, ça va être Guiton de Morveau et Chaptal, parce que Chaptal était aussi un grand chimiste et académicien. Et donc Chaptal écrit son rapport avec Guiton de Morveau sur les industries insalubres. Donc il est à la fois le principal accusé, le grand ordonnateur de la législation, parce qu'il va le rester jusque très très influent, hein. Il est conseiller d'État encore, Chaptal, il est voilà, c'est pas n'importe qui. Et en même temps, l'expert, le principal expert de l'évaluation des risques en fait. Et donc sans surprise, dans ce rapport de 1804, de ce rapport des académiciens, il va dire que certains établissements sont particulièrement nocifs, tels que les tanneries, les boyauderies, qui sont vraiment très très mauvais et qu'il faut absolument exclure de la ville, mais que les fabriques d'acide, par exemple, sont tout à fait tolérables en ville, à condition qu'elles soient bien surveillées. D'ailleurs, les ouvriers qui y vivent ne s'en plaignent pas, il suffit d'aller les voir et ça se passe très bien. Donc voilà un petit peu la philosophie qui va guider l'État jusqu'à la loi de 1810. Sauf qu'entre-temps, entre-temps 1809, les pollutions acides notamment se sont accrues avec la fabrication augmentée de soude artificielle. La soude artificielle, c'est une production de soude donc pour la savonnerie notamment, et puis les verreries. Donc c'est vraiment les matériaux primaires de base, hein, pour fabriquer du verre et du savon. Mais pour fabriquer de la soude, soit on prend des végétaux naturels et puis on le transforme en sulfate de soude, en sulfate de sodium, etc. Soit on va prendre du sel dans lequel on met de l'acide sulfurique, on fait chauffer et ça dégage de l'acide chlorhydrique en fait dans l'atmosphère. Et donc en 1809-1810, tout d'un coup il y a un boom de production de soude artificielle en France. On est dans une période de blocus aussi de guerre avec l'Angleterre, donc il faut produire de la soude. Et ça crée donc des procès vraiment considérables, ce qui mène à un nouveau rapport en 1809 des académiciens sur les établissements insalubres, donc toujours avec Chaptal et Guiton de Morveau, avec en plus Fourcroy, Vauquelin et Deyeux, trois chimistes, qui va conclure de façon un peu plus nuancée au fait que les fabriques de produits chimiques peuvent effectivement être polluantes et être classées dans des établissements spécialement à surveiller. La loi de 1810 classe les établissements industriels en trois classes, les premières classes ne devant pas être situées à proximité des habitations et deux autres classes pouvant l'être avec une surveillance de la préfecture de police. La première classe devant être surveillée et autorisée par le Conseil d'État. Dans la pratique, en fait, ce qui va avoir lieu, c'est que les frontières entre les classes vont être très très poreuses et elles vont être arbitrées par le Conseil de salubrité de Paris pendant 30 ans avant que d'autres conseils de salubrité départementaux en fait se créent. Et dans le Conseil de salubrité de Paris, c'est clairement l'entourage de Chaptal, et de toute façon c'est un conseil de salubrité attaché à la préfecture de police, hein, de Paris, donc c'est une création de Chaptal, et ce sont les collègues en fait de Chaptal qui en sont membres. Et quasiment tous sont des pharmaciens chimistes, et beaucoup d'entre eux sont fabricants eux-mêmes de produits chimiques et ont des usines de produits chimiques, y compris dans Paris. Et par exemple, Darcet co-dirige l'usine d'éternes de Chaptal. Donc, il co-dirige l'usine d'acide sulfurique des ternes de Chaptal. Il dirige une usine de soude artificielle à Nanterre. Il est impliqué dans l'industrie du gaz d'éclairage dont je vais parler tout à l'heure. Et il est par ailleurs lié à toute une série d'industries chimiques dans Paris. Et il a des partenariats aussi avec l'Angleterre. Et c'est Darcy, à partir de 1813, qui devient le chef officieux de ce conseil de salubrité, qui devient en fait pro-industriel, clairement pro-industriel, au point que parfois ses avis sont beaucoup plus en faveur de l'industrie que les avis du Conseil consultatif des arts et manufactures, qui est un conseil consultatif du ministère de l'Intérieur pour développer l'industrie. Donc ce conseil de salubrité, qui a pour mission de veiller à la santé publique en fait des Parisiens, va considérer qu'en fait l'industrie n'est pas nocive. Et alors je ne dis pas qu'ils se trompent ou qu'ils ne se trompent pas, mais c'est leur argument, mais ça va permettre en fait d'autoriser un grand nombre d'établissements industriels et artisanaux dans la ville, parce qu'ils ne sont considérés comme plus tellement nocifs. Et il y a un grand débat qui a eu lieu dans les années 1819-1820 sur la question de la première classe. Qu'est-ce que ça voulait dire être éloigné des habitations? Et parce que le texte de loi ne mentionne pas de distance. Et en fait, eh ben, durant toutes ces années, là, jusqu'en 1825, parce qu'en 1825, la réponse, ça va être ben, finalement, tant qu'on a un plan qui peut signifier, un petit peu comme en Angleterre avec les sociétés d'assurance, que le risque est minime, ça peut être possible. Donc en fait, de 1810 à 1825, il va y avoir un processus qui fait que on ne peut pas dire c'est 300 mètres de distance comme ça, de façon rigide. Il faut évaluer les risques au cas par cas. Et c'est nous, Conseil de salubrité, qui allons évaluer les risques au cas par cas. Et comme on considère que finalement un four à chaud, un four à plâtre, est-ce que c'est vraiment nuisible? Est-ce qu'on a vraiment des preuves que c'est vraiment nuisible? Une fabrique d'acide, est-ce que c'est vraiment le cas? Et comme ils sont tous impliqués en fait dans des fabriques de produits chimiques ou presque tous, petit à petit, la notion de distance va complètement s'amenuiser. Et la plupart des établissements vont être autorisés dans les villes. Alors, la question de distance va être remplacée par une autre condition, qui est celle de la condition technique, où de plus en plus la norme technique va prendre le dessus, en fait. Donc si vous construisez votre four de façon telle qu'il soit fumivore, par exemple, c'est-à-dire qu'il brûle sa fumée, donc on va vous donner l'autorisation. Donc ça va être des conditions de ce type qui vont avoir lieu. Alors, quand même, sur la culturation du risque industriel, deux grands débats qui prennent forme entre les années 1815 et 1825, avec l'apparition des premières usines de gaz d'éclairage. Donc la première en France, c'est 1817 à Paris, dans le jardin du Luxembourg, c'est une petite usine, hein, celle de Paris. Mais tout de suite après, 1817, donc 1818, 1819, plusieurs usines à gaz se construisent dans Paris. Et puis c'est aussi le développement des machines à vapeur, dont la première est installée à Paris en 1879, c'est les pompes à feu de Chaillot. Mais en fait, l'usage de la machine à vapeur dans l'industrie ne commence vraiment à Paris, en tout cas, qu'en 1815 à peu près. Hein. Et puis, ça va se faire progressivement. Ce qui se passe, c'est que plusieurs machines à vapeur explosent en 1817, 1818, 1821, etc. Sans faire beaucoup de dégâts, mais elles explosent quand même. Et puis, en Angleterre, des usines à gaz ont explosé. Parce que le gaz qui est produit, c'est du gaz hydrogène qui détonne au contact de l'oxygène. Donc il faut, là ici, dans cette usine à gaz primitive, une des premières d'Angleterre, donc il faut récupérer le gaz hydrogène dans des tuyaux bien hermétiques. Donc ça provient de la distillation du charbon, en fait. Et puis il faut l'amener dans des réservoirs qu'on va appeler des gazomètres. Donc gazomètres, ça va être les gros gazomètres ronds hein, dont vous pouvez avoir l'image. Ici, c'est un primitif, donc il n'est pas tout à fait comme ceux qui vont apparaître plus tard. Donc le gaz hydrogène va être stocké dans des gazomètres à l'abri de l'air. Puis ensuite, le gaz doit être distribué par des conduites dans les passages publics, les appartements. Donc à chaque fois, il y a du risque et des risques d'explosion considérables. Et donc grand débat pendant une décennie sur les risques. Est-ce que on peut autoriser ce genre d'établissement dans la ville? Parce que ce sont des établissements dangereux. Et là, le mot dangereux va commencer à apparaître dans les textes, dans les rapports. Et finalement, qui va trancher? C'est le Conseil de salubrité qui va trancher. Là, je vous donne juste l'exemple des usines à gaz, mais le processus va être un peu du même ordre pour les machines à vapeur. Donc, les usines à gaz, en fait, Cadet de Gassicourt, membre du Conseil de salubrité, considère que La production d'usines à gaz est largement légitime pour être classée dans la première classe. Mais il ajoute dans son rapport que comme il faut des conduites de distribution et que ça coûte cher, on peut pas considérer qu'on va mettre une usine à gaz à 3 km ou à 15 km d'une ville parce qu'il faut de toute façon faire venir le gaz par des conduites. Donc là, une citation telle quelle, hein, qu'avec des appareils construits... Si on décide, en fait, comme il y a des conduites de distribution nécessaires, la fabrication de gaz ne peut se faire qu'avec des appareils construits dans l'intérieur de la ville. Il est constant que si l'on adopte ce mode d'éclairage, ben, la fabrication du gaz ne peut pas être rangée dans la première classe. Et juste avant, il a dit que c'était un établissement particulièrement insalubre. Donc, en fait, la logique, ça va être de raisonner quel choix de politique économique on fait et comment on adapte ce choix de politique économique à la classification qu'on a décidée avant. Juste après ce rapport, donc les usines à gaz sont classées dans la deuxième classe, donc on peut les construire en ville. Alors, ça fait pas clore les débats, puisqu'en 1822-1823, des procès ont lieu, soit parce que c'est très polluant en plus, une usine à gaz, alors c'est non seulement dangereux, mais polluant, et puis d'autres explosions ont lieu en 1823, et puis le préfet de police il décide en 1823 d'interdire toute construction de machines à vapeur à moins de 75 mètres d'une habitation. Mars 1822. Et là, scandale du Conseil de salubrité, mais c'est pas possible, si on fait ça, on détruit l'industrie. On peut plus construire de machines à vapeur en ville parce qu'il n'y a aucune habitation qui soit à moins de 75 mètres d'une usine. Et une grande bataille qui a lieu pendant 6 mois. Et finalement, le ministère de l'Intérieur retire son ordonnance, vaincu par une argumentation pro-industrialiste, en fait, et puis une politique d'État, tout simplement, hein, pro-industrialiste. Ça débouche quand même sur des nouveaux rapports de l'Académie des sciences, 1823-1824, sur le gaz d'éclairage et les machines à vapeur, et deux lois, des ordonnances royales, qui s'appellent comme ça à l'époque, hein, puisqu'on est dans l'époque de la Restauration, mais qui sont des lois, en fait, sur la mise en place de normes très strictes de prévention, en fait, sur les usines à gaz et sur les machines à vapeur. Donc ça reprend un peu les préventions de Komodo et Incommodo des fonderies de Suif. Mais ça permet, en fait, de considérer que ces établissements peuvent être en ville. Et l'année d'après, dans la nouvelle nomenclature, en 1825, la nomenclature actualisée de la loi de 1810, le mot « dangereux » apparaît dans le titre de la loi, accolé à « insalubre ». Et c'est devenu les établissements incommodes, insalubres et dangereux. Et c'est pour ça que j'arrête cet exposé en 1825, parce que pour moi, c'était de vous parler de l'émergence du risque industriel et de l'émergence de la catastrophe ou du danger, où là, on a vraiment une acculturation de ce risque durant, en fait, deux générations, on va dire, hein, et où en 1825, bah, ça y est, la société, elle assume ce risque, elle assume la possibilité d'une catastrophe, et il y en aura, plus à Londres d'ailleurs qu'à Paris. Enfin, ce n'est pas des catastrophes qui se chiffrent à des centaines de morts, hein. Mais il y aura des gros accidents tout au long du 19e siècle, soit d'usines à gaz, soit de machines à vapeur, soit d'autres types d'industries chimiques dans la ville. Et dernière chose, c'est que dans ce processus d'acculturation, les plans ont joué un rôle essentiel au 19e siècle. Comme les plans avaient joué un rôle essentiel pour les sociétés d'assurance au 18e siècle pour les incendies. Premier plan, c'est une fabrique d'artifices. Paris 1824, on est près du canal Saint-Martin ici, donc on est dans l'actuel 10e arrondissement. L'artisan, il veut construire son établissement ici en A. Et l'architecte ici, il ajoute au plan qu'il serait préférable de construire son établissement ici en H. Parce que, alors, c'est non pas par rapport à l'éloignement des habitations qui sont ici, mais son argument, c'est l'éloignement par rapport au canal, justement, et notamment tous les systèmes d'ouvrage, en fait, du canal qui pourraient être abîmés en cas d'explosion. Autre exemple, c'est une usine d'acide sulfurique à Gentilly, mais maintenant, c'est Paris 13e arrondissement, parce que Gentilly a été découpé en deux à l'annexion. Ici, c'est la partie parisienne avec la Bièvre. En fait, une usine d'acide sulfurique en A ou en B. Donc, l'industriel propose les deux. Et donc, le Conseil de salubrité considère qu'elle autorise l'établissement, mais plutôt en A qu'en B, parce que c'est un peu plus loin de Paris. Et là, il y a une propriété ici d'un tiers voisin. Et la distance est un peu moins grande en A qu'en B. Je crois qu'il y a 100 mètres et là, 110 mètres, si ma mémoire est bonne. Mais bon, le conseil de célébrité considère qu'en vrai, c'est le risque est moins grand pour, par rapport à Paris, l'urbanisation de Paris, etc. Donc en fait, les cartes vont servir d'évaluation des risques, hein, beaucoup plus que des normes très strictes d'éloignement ou de ce qu'on va considérer comme le hors le mur, c'est-à-dire ces expressions un peu génériques qui permettaient à la police d'interdire un établissement industriel insalubre. Mais voilà, je pense que ce que je voulais vous dire, le processus d'acculturation, voilà, il se solde dans ces années 1800-1825, en France en tout cas. En Angleterre, c'est moins tranché. C'est beaucoup moins tranché. Le processus est plus linéaire parce qu'il est déjà un peu accepté au XVIIIe siècle. Et puis, il n'y a pas cette rupture révolutionnaire, cette rupture de l'administration d'État industrialiste, puisqu'on a déjà une politique industrialiste en Angleterre avant la Révolution, et en tout cas à Londres, on a déjà une politique de favoriser l'industrie. Voilà. Merci à vous de votre écoute.